Marie de Régnier, La double maîtresse, première partie, chapitre 12. Certes, en arrivant à Pontaubel, Julie avait été conduite, par l'ennui qu'elle y pressentait, à s'occuper de son cousin Nicolas. D'autant mieux qu'il se trouvait là être le seul homme sur qui elle put exercer sa nouvelle coquetterie et essayer la force neuve de ses charmes. Il s'y ajoutait l'instinct et le désir d'être regardé et admiré, un besoin de se montrer, d'être touché et caressé comme un jeune animal familier qui se frôle et cherche la main. Elle avait les chines souples et voluptueuses des jolies bêtes. Ce qu'il y eut d'admirable et d'assez particulier, c'est qu'entre elle et son cousin, jamais un mot d'amour ne fut prononcé. Tout se passa en jeu et en badinage, sans qu'il s'y mêlât rien de sentiment ni aucun terme qui pût avertir Nicolas de la bague qu'il courait en aveugle et les yeux fermés. Aussi s'abandonnait-il naïvement aux sensations agréables qu'il éprouvait en la compagnie familière de cette belle fille, rieuse, violente et vive. Le bon abbé Hubertet, en l'avertissant des périls de l'amour, avait négligé de lui enseigner que la volupté prend toutes les formes, même les plus innocentes, qui ne sont point les moins redoutables. Au seul nom de l'amour, Nicolas se fut méfié de ses atteintes. Il avait pour s'en défendre toute la sévérité de son éducation, les secours d'une solide piété, tous les principes de réserve et de raison dont on avait pris tant soin à lui inculquer les garanties, mais les manèges de Julie n'éveillaient en lui aucune alerte. Son ignorance des surprises des sens le mettait à leur merci. Il vivait dans un émoi continuel dont il se rendait mal compte et Julie ne lui laissait aucun répit tout le jour et même la nuit. La plus extrême liberté les favorisait. Madame de Galando avait eu besoin de la petite chambre que Julie occupait auparavant près de la sienne pour en agrandir la resserre où elle renfermait ses fioles et ses bocaux. C'était une vraie boutique d'apothicaire qu'elle avait là sous la main. Tout y était étiqueté avec soin et rangé en fort bon ordre. Au plafond pendaient de gros paquets d'herbes sèches. Il y avait même dans un coin de la pièce tout un assortiment de seringues de tailles diverses. On respirait là une odeur aromatique et fade que Madame de Galando emportait partout imprégnée dans ses vêtements. Pour loger ses drogues, elle avait relégué Julie au bout d'un long corridor sur lequel s'ouvrait aussi l'appartement de Nicolas. Le couvre-feu sonné et le château endormi commençaient pieds nus sur le carreau la course des bougies. Julie inventait mille prétextes pour relancer Nicolas et c'était, dans la demi-obscurité, avant que chacun rentrât dans sa chambre, des rires étouffés, des bousculades silencieuses. Une fois seule, Julie se mettait à l'aise, en chemise et en cornette de nuit, puis elle ouvrait la fenêtre et attendait. Les cheminées et les combles du château étaient hantés par de nombreuses chauves-souris. Dès le crépuscule, elles commençaient à errer de leur vol rapide et doux. Elles se croisaient en arabesques entrelacées et s'évitaient par de brusques angles. Elles jouaient, agiles, promptes et mystérieuses, au-dessus du parterre d'eau et semblaient, par le langage de leur grimoire aérien, conjurer à les suivre et vouloir délivrer de son enchantement immobile l'aile de bronze du cadran. La lumière les attirait dans la chambre. Il n'était pas rare qu'une y entrât furtivement. C'était justement ce qu'attendait Julie. Elle ouvrait doucement sa porte et venait gratter à celle de son voisin qui, en robe de chambre à ramage, s'apprêtait à se coucher, à moins que, réveillé en sursaut, il accourut tout ébouriffé au secours de sa cousine. Nicolas détestait les chauves-souris et même il en avait grand-peur. Aussi était-ce en courbant le dos et en renfonçant la tête entre les épaules qu'il pénétrait chez Julie, portant une sorte de long manche à balai terminé par une boule d'étou dont on se servait contre les toiles d'araignée. Alors commençait la poursuite aérienne. Julie, réfugiée sous les rideaux de son lit, regardait faire Nicolas la tête passée par la fente de l'étoffe. Il allait et venait aux quatre coins, levant les bras contre les intruses, car souvent ce n'était plus une chauve-souris, mais deux ou trois qui voltaient au plafond et qu'il s'agissait de déloger. Elles tourbillonnaient en voltes rapides. Leur vitesse semblait les multiplier aux yeux du pauvre Nicolas. Elles lui paraissaient nombreuses, insaisissables, vertigineuses. Puis, tout à coup, elles s'éclipsaient toutes ensemble, où il n'en restait plus qu'une, qu'il pourchassait jusqu'à ce que le bâton finît par l'atteindre. Quelquefois, elle tombait sur le carreau, blessée et encore vivante, avec de petits cris plaintifs. Un coup porté l'achevait et elle mourait avec un frémissement diminué de ses ailes membraneuses. Le plus souvent, la petite bête tombait de suite, assommée et toute molle, et restait à terre comme une feuille morte. Alors, Julie sortait de sa cachette et, le bougeoir à la main, venait examiner la victime. Elle regardait son corps velu et, écartées en leur délicate structure presque végétale, les larges ailes onglées, brunes, transparentes et sèches, par le bout desquelles Nicolas la prenait avec dégoût et, d'un geste, la lançait par la fenêtre dans la nuit. Il était tard, Julie se recouchait, et Nicolas ne s'en allait pas sans avoir, dans l'adieu prolongé en badinage, senti sous l'étoile le corps souple, agile et tiède de sa peureuse amie. Ces contacts laissaient à Nicolas les mains énervées et inquiètes. Il lui était venu un besoin de toucher et de palper. Il tressaillait à table, sous les yeux de sa mère, quand il sentait se poser sur le sien le pied de Julie, qui prenait à son trouble un malicieux plaisir. Quant à elle, sa hardiesse augmentait de jour en jour, et elle finit par la porter aux dernières limites de l'audace. Parfois, Nicolas cherchait une trêve et un refuge dans l'appartement de Madame de Galando. Il s'asseyait dans un fauteuil sans parler, regardait attentivement le mobilier sévère, les hautes tentures d'un vert sombre, puis il reportait les yeux sur sa mère. Elle lisait ou travaillait, ramassée sur elle-même, avec ses habits couleur de tanne, sa coiffure à l'ancienne mode. Auprès d'elle, une petite table à pied torse supportait des vases et des flacons. Souvent, il surprenait la vieille dame tenant entre ses mains une large ampoule de verre qu'elle élevait à bonne hauteur et à travers sa transparence, tournée vers la fenêtre, elle examinait la qualité de ses urines. Puis, elle reposait sur la table la cornue tremblotante et ôtait les larges besicles dont elle aidait sa vue, devenue avec l'âge faible et incertaine. Julie abusait de cette infirmité de sa tante dont elle avait évalué la juste proportion pour mettre Nicolas au supplice. À peine réfugiée dans l'appartement de Madame de Galando, elle venait les relancer. Il n'avait plus aucun repos. Elle lui infligeait la transe continuelle d'être surpris à quelques-uns des jeux sournois qu'elle imaginait en présence même de sa tante. Nicolas ne savait vraiment pas où se mettre. Par contenance, il cherchait un livre. Madame de Galando se servait assez souvent de grands in-folios qui contenaient le terrier de Pontobel et des seigneuries qui en dépendaient. Les plans en étaient figurés en couleur avec une habile précision. On y voyait la disposition exacte des lieux-dits avec leurs noms et leurs bornages. Tout y était minutieusement représenté, cultures, friches, ruisseaux, prés et taillis, et même les arbres par de grosses boules vertes. Ces belles cartes étaient ornées de cartouches contournées et d'un pompeux encadrement. Madame de Galando aimait à les consulter et elle tirait quelque orgueil de cet examen. Certes, elle avait amélioré et agrandi ce beau domaine depuis le temps où l'ordre du feu comte avait fait dresser les plans dont les vastes registres servaient d'abri à Nicolas et de paravent aux agaceries de Julie. Derrière les grandes pages ouvertes, Nicolas rougissait et pâlissait tour à tour, et Julie, tout en lui tirant les oreilles et en lui mettant les doigts dans le cou, regardait par-dessus l'épaule de son cousin passer sous ses yeux les bois, les prés, les étangs et les labours qui composait ce beau comté de Pontobel dont le possesseur obéissait au moindre signe de son petit doigt. Les années précédentes, Julie voyait arriver d'avance avec plaisir le moment de retourner au Fresnay. Mais cette fois, Nicolas et elle étaient si occupés l'un de l'autre que le temps fuyait sans qu'ils y prissent garde. L'extrême beauté et la forte chaleur du mois de septembre les empêchèrent de s'apercevoir qu'ils touchaient presque déjà à sa fin. Madame de Galando les en avertit un jour d'un air sournois en feuilletant un almanach. Sa mauvaise humeur contre Julie avait redoublé. Il ne se passait guère de repas qu'elle ne lui infligeât quelque avanie et elle en suivait l'effet sur son fils d'un air curieux. La vérité est que le vieux jardinier, furieux du ravage de ses roses, s'était plaint à Madame de Galando de cette dépradation, tout en rejetant la faute sur Mademoiselle Julie, qui faisait faire à Monsieur Nicolas tout ce qu'elle voulait. Le pauvre jeune maître étant faible et plus doux qu'un agneau. Ce propos éveilla la jalousie de Madame de Galando, non qu'elle soupçonnât rien de ce qui se passait réellement, mais l'idée que Nicolas eût quelque bonté pour sa cousine l'irritait singulièrement. Aussi se promit-elle d'en avoir le cœur net. D'ailleurs, elle était particulièrement irritable à ce moment. Ses urines lui paraissaient, en leur panse de verre, mauvaises et sablonneuses. À cela se joignait encore la contrariété qu'elle avait éprouvée en apprenant que sa sœur, Mademoiselle Armande de Mauceuil, qu'on tenait enfermée à Bas-le-Pré, et s'était échappée à travers champs. La folle, en effet, avait disparu sans qu'on pût savoir où, et Madame de Galando ressentit grande honte à apprendre que le curé de Noircourt-les-Trois-Fontaines l'avait trouvée, en venant dire sa messe, le matin, accroupie, la jupe troussée, dans la cuve du bénitier, où elle mêlait des eaux qui n'avaient rien de bénite, et d'où on eut toutes les peines du monde à la faire sortir pour la ramener à Bas-le-Pré. Outre ces causes, la grande chaleur excédait Madame de Galando, qui la supportait mal, tandis que Nicolas et Julie s'en jouaient. Le jour des Saint-Côme et d'Amiens, qui est le 27 septembre, fut singulièrement lourd et orageux. De gros nuages couraient sur Pont-au-Bel, interrompus de brusques coups de soleil. Le jardin était désert. Même le râteau du vieux jardinier avait fait silence. Julie et Nicolas trouvèrent le bonhomme étendu et dormant auprès de la roseraie. Depuis le larcin des roses, il surveillait ses rosiers. Julie cueillit une des fleurs qui restait encore et l'effeuilla par malice sur la figure suante et tannée du dormeur. Il marchait doucement sur le sable chaud. Julie avait entrouvert son fichu. Il cherchait un endroit frais du jardin. Partout, il faisait étouffant. Auprès du petit bassin, ils s'assirent. La pierre brûlante de la margelle entourait un cercle de vases sèches et craquelés. La rocaille y semblait cuire. Le triton paraissait comme abasourdi et stupéfait. Il était tout acheté de gouttes de soleil mouvantes sur sa peau de métal. Nicolas toucha du doigt le cou de Julie. Une tiède moiteur le nacrait. Elle regardait sournoisement son cousin à travers ses cils mi-clos. Il était pâle et ses mains tremblaient. Parfois, la vase durcie se fendillait avec un bruit sec. On respirait une odeur douce et fade de feuilles chaudes et de terre brûlée. Il suffoquait et Julie proposa d'aller se reposer à la bibliothèque. Ils revinrent par le potager. Julie, en passant, cueillit à la treille quelques grappes de raisin. Ils longèrent le parterre d'eau et passèrent sous les fenêtres de Madame de Galando, sans s'apercevoir que la vieille dame les regardait derrière la vitre. La porte de l'appartement était ouverte, Julie y jeta un coup d'œil à la dérobée. Sa tante dormait sur son fauteuil. Elle ronflait même, ce qui la fit rire. La bibliothèque où ils entrèrent était en effet fraîche et sombre à cause des volets clos. Il y avait juste au milieu une grande table de marbre florentin où l'on voyait représenter en mosaïque des fleurs et des fruits. Julie posa ses grappes sur un des coins. Nicolas, tombé assis dans un fauteuil, ne disait rien et suivait des yeux Julie qui rôdait çà et là. Quand elle s'éloignait, il l'apercevait dans un demi-jour bleuâtre et velouté. Le bruit léger de ses pas le faisait tressaillir et il fermait les yeux, doucement et longuement. Julie s'était assise à l'un des angles de la table de mosaïque. Elle y promenait ses mains et parfois se penchait pour appuyer ses lèvres chaudes. Puis, elle s'y étendit de toute sa longueur et resta immobile dans un allongement voluptueux. Brusquement, elle se rassit. Ses doigts rapides palpèrent son corsage entrouvert qu'elle dégrafa complètement et, d'un mouvement coquet des épaules, elle se défit des manches courtes. Elle était en corset, le cou et la gorge nue, ses petits seins fermes, blancs et frais, à l'air. Alors, elle se coucha de nouveau. Soutenue sur ses coudes, elle s'amusait à faire toucher au marbre les pointes de sa gorge. À chaque contact, une agréable fraîcheur se répandait dans son corps. Elle la ressentait surtout entre ses deux épaules. Lasse de ce jeu, elle se tourna sur le dos, prit une des grappes et commença un à un à en manger les grains. Elle mangeait lentement, avec délicatesse et gourmandise. Elle tenait le raisin haut devant elle. Chaque mouvement de son bras élevé et ramené à sa bouche laissait voir l'ombre blonde de son aisselle. La grappe diminuait peu à peu, et bientôt Julie ne garda plus à la main que le vert squelette végétal en sa structure délicate, où chaque grain arraché laissait comme une goutte d'eau ambrée et liquoreuse. Un dernier grain restait. Elle le prit entre ses doigts et, avec un rire hardi, le lança à Nicolas qui l'atteignit au visage. Il s'était levé du fauteuil, très pâle. Julie ferma les yeux. Elle sentait sur sa peau un souffle haletant, des lèvres sur sa bouche, une main à ses seins. Une autre plus hardie et plus intime, qui s'embarrassait dans les plis du jupon, atteignait la chair de la cuisse et montait tremblante et froide avec un léger chatouillement d'ongles. Puis, tout à coup, elle ne sentit plus rien et regarda. Dans le cadre de la porte grande ouverte, Madame de Galando se tenait debout. Elle lui sembla d'une taille inusitée, comme si sa haute coiffure à l'ancienne mode touchait presque le plafond. Puis, elle se rapetissa et Julie la vit à trois pas d'elle, immobile. Elle entendait Nicolas claquer des dents. D'un souple coup de rein, elle s'assit sur la table, les jambes pendantes. Elle touchait par contenance le bout rose de son sein d'un air attentif et indifférent. Sa jupe retroussée découvrait sa cuisse nue. Quand elle eut sauté sur le carreau, elle hésita un instant, fit la moue, regarda alternativement sa tante et son cousin, puis, éclatant de rire, passa devant Madame de Galando, la salua d'une révérence et s'esquiva, non sans entendre, en fermant la porte derrière elle, le bruit sur la joue du fils coupable, du sonore, vigoureux et solide soufflet maternel.